Bonjour, nous allons continuer notre étude sur l'Apocalypse. Je vous lis dans Apocalypse chapitre 1, verset 10. Apocalypse 1, 10. Le jour du Seigneur, l'Esprit me saisit, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme une trompette, disant, « Écris sur un rouleau ce que tu vois, et envoie-le aux sept communautés messianiques, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour voir qui me parlait, et, m'étant retourné, je vis sept menorotes d'or. Seigneur Jésus, veuille accorder ta bénédiction sur cette étude, sur ce moment privilégié que nous avons de pouvoir nous pencher sur les Saintes Écritures. Merci Jésus. Amen. Alors, beaucoup de choses ont été dites et écrites au sujet du jour du Seigneur. Les uns disent que c'était un dimanche, que Jean était sur l'île de Patmos et qu'un dimanche il a eu cette vision. Les autres disent que c'était un jour de Shabbat, c'est-à-dire un samedi. Bon. D'autres disent qu'il a été ravi au jour de l'Éternel, vous savez, le jour de l'Éternel, grand et terrible et tout. Enfin, il y a beaucoup de choses et de nuances qui ont été dites sur ce fameux jour du Seigneur. Pour ma part, je pense que Jean a été ravi dans ce que j'appelle le moment de Dieu. Au moment de Dieu, au moment que Dieu a voulu révéler ces choses à Jean. Dieu a toujours son temps, son moment. Et le moment était venu de faire connaître ces choses. Voilà. Le jour du Seigneur, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors, c'est toujours le jour du Seigneur. Pour ceux qui croient, c'est toujours le jour du Seigneur. Pour ceux qui ne croient pas aussi, mais ils ne s'en aperçoivent pas. Si il y a des jours qui ne sont pas les jours du Seigneur, alors à qui sont-ils ces jours? Tout est à Dieu, mes frères et sœurs. Et quand le moment est venu pour qu'une chose arrive, eh ben, elle arrive. Alors on peut l'appeler bien, on peut l'appeler mal, mais si une chose arrive, voilà, Dieu l'a permise, même si ça fait souffrir, ben voilà, c'est arrivé, c'était le moment, c'était l'heure de Dieu, c'était le jour du Seigneur, ni avant ni après. Rien n'arrive sans que l'Éternel ne l'ait permis, ne l'ait ordonné, n'est-ce pas? Tout arrive quand Dieu le veut. Qui pourrait allonger, n'est-ce pas, nous dit la Bible, sa vie, ne serait-ce que d'un seul jour, d'une seule heure? Alors évidemment, c'est vrai qu'avec la médecine que nous connaissons aujourd'hui, la chirurgie, les progrès extraordinaires, il nous semble qu'on puisse le faire, qu'on puisse rallonger la vie des gens. Mais non, je ne crois pas. Je crois simplement que quand c'est notre heure, c'est notre heure. Alors, il y aurait non-assistance à personne en danger si on ne faisait pas des efforts pour essayer de rallonger notre vie ou d'améliorer notre condition de vie. Mais il n'empêche que quand c'est l'heure, bien c'est l'heure. C'est louable de tout faire pour aider les malades, mais quand c'est le jour du Seigneur, ben c'est le jour du Seigneur. Vous voyez pourquoi je dis que Jean a été ravi le jour du Seigneur? Dans ma pensée, c'est plus simple, c'est moins une doctrine, c'est plutôt voilà, une réalité. Quand c'est le moment de Dieu, c'est le moment de Dieu. Ce que Jean a reçu ce jour-là, c'est le message, c'est un message de la plus haute importance. Parce que Dieu est un, l'univers est un, et nous sommes indissociables de Dieu. Jean n'est donc pas visité pour lui-même, en fait, mais pour tout et pour tous. Pour le monde qui était son présent à lui, mais pour le monde qui est devenu notre présent. Notre monde, c'était le futur de Jean. Et le monde de Jean, c'est notre passé. Mais il y a aussi un avenir, si Dieu le veut. Et le message que Jean a reçu là, il est pour nous aussi, vraiment, mes frères et sœurs. C'est pourquoi il est bon de l'étudier. C'est dommage que dans les églises, on le laisse de côté. Je crois que c'est par peur. Les pasteurs ont peur parce qu'il y a ce fameux verset qui dit « Malheur à celui qui ajoute ou à celui qui retranche », alors comme ils ont tellement peur, ils préfèrent ne pas aborder ces choses. C'était l'heure et il fallait que cette révélation soit donnée. Donc, dans son amour, eh bien, Dieu a touché une conscience humaine, celle de Jean, pour lui apporter sa révélation du chemin, de la vérité, et sa révélation de notre transfiguration. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Parce que, en fait, nous sommes ici-bas, nous sommes nés uniquement pour connaître Dieu et redevenir à son image, et retourner auprès de lui. Jean dit, j'ai été ravi au moment de Dieu, à l'heure de Dieu, au jour du Seigneur, à l'heure où tout est montré un, à l'heure où tout est mis en place, et Jean écrit, j'entendis. Juste avant, Jean utilisait le verbe montrer, là il entend. Et j'aime bien ce verbe entendre parce que quand on dit j'entends, ah, vous avez entendu un bruit. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais le mot entendre signifie aussi comprendre. Quand on entend Dieu, on comprend Dieu. Ou alors c'est pas Dieu qu'on entend. Parce que Dieu est clair. Quand il dit quelque chose, c'est pour être compris. Il n'y a pas besoin d'interprétation. On comprend. Et il entend derrière lui. Jean a dû se retourner. En fait, le mot qui est employé là, c'est se convertir, se retourner de l'autre côté, se tourner de l'autre côté. Jean, ben, on peut dire qu'il avait pris de la bouteille, le petit père, il n'était plus un novice, et ça faisait longtemps qu'il s'était converti, il connaissait beaucoup de choses, cependant, là, il a dû se convertir, se retourner. Et ça doit nous arriver, j'espère que ça vous arrive aussi, parce qu'au long des années, on peut se cristalliser dans des idées, dans des doctrines, dans des interprétations, justement, et qui ne sont pas forcément complètement fausses, mais qui ne sont pas forcément complètes. Est-ce que vous allez vous convertir? Est-ce que vous êtes prêt à accepter? Voilà, bon, bien, je vais me retourner, je vais entrer en moi-même aussi, si vous voulez. Avoir l'humilité de Jean qui se retourne parce qu'il veut savoir. Ou est-ce que vous pensez que vous savez déjà tout? Oh, mais j'ai déjà entendu prêcher là-dessus, je sais. Il écrit plutôt, derrière moi. Derrière ce qu'il est. Nous avons tous une apparence, quelque chose qui est devant. Mais derrière notre apparence, en fait, c'est de là que Dieu nous parle. Il nous parle en parlant à ce qui est caché en nous, à ce qui nous rend, je dirais, humbles. Notre chair est loin d'être humble, elle se vante de grandes choses. Dieu nous parle derrière le voile de notre chair, de notre dualité, de nos contradictions. Et c'est de là, derrière ce voile, derrière le voile de notre chair, que surgissent les certitudes, qui ne sont pas la norme. La norme que le monde, même religieux, admet. Ce que Dieu dit très souvent est dérangeant. Derrière le voile de notre chair, c'est là que Dieu nous parle et il ne parle pas à notre chair. Derrière ce voile, derrière son moi, Jean entend une voix forte, comme le son d'une trompette. C'est un terme qui est courant dans la Bible. Mais vous savez, peu de gens reconnaissent cette voix parce qu'ils n'écoutent pas. Cette voix forte comme le son d'une trompette derrière notre moi, c'est la voix du silence qui remplit tout l'espace. Dieu parle. Il parle sans cesse. Dans la lettre aux Romains, il nous dit qu'on voit, on entend, on peut comprendre. Dans la nature, la sagesse infiniment variée de Dieu, elle se voit comme à l'œil nu. Dieu parle. Mais qui écoute? Cette voix est si forte qu'on n'entend pas. Elle est devenue la voix du silence. Je me rappelle, j'avais enseigné ces choses. Je me rappelle toujours, je disais d'écouter, de regarder. J'avais même dit, marchez plus lentement, prenez le temps d'écouter les bruits, les sons. Prenez le temps de prendre conscience de ce qui vous entoure, des bruits, des couleurs, des odeurs. Je n'ai pas été compris et certains m'ont taxé d'idiot du village, influencé par le New Age. Bon, alors j'ai arrêté parce que je voyais que ça ne servait à rien de continuer dans cette voie-là. Mais ça fait quelques années et maintenant je veux revenir là-dessus. Je pense que ces personnes ne m'écoutent plus et... Ou alors si elles m'écoutent, je pense qu'elles ont mûri, qu'elles ont changé, et j'espère en bien. Alors je reviens sur cela parce que c'est de la plus haute importance, mes frères et sœurs. Qui pourra entendre, en lisant le livre de l'Apocalypse, s'il ne se retourne pas? S'il ne sait pas entendre la voix forte comme une trompette, c'est-à-dire un son tellement fort, tellement évident qu'il passe inaperçu, silencieux pour la grande majorité des gens. Ce n'est pas la chair qui peut entendre Dieu et comprendre Dieu. Ce n'est que notre esprit. Les gens qui ressentent la présence de Dieu, c'est encore la chair. On n'a pas à sentir la présence de Dieu. Parce que seul notre esprit connaît la voix du bon berger. Notre chair, quand elle se trouve en face des Écritures, elle interprète ces paroles écrites. D'où les problèmes. La chair, elle interprète ses pensées, ses propres pensées, plus ou moins déséquilibrées. Mais si c'est par l'Esprit que vous entendez l'Esprit Saint, alors vous comprenez, vous savez. 10 000 peuvent se lever à votre droite ou à votre gauche. Vous ne demandez pas de ce que vous savez, parce que vous avez vu et vous rendez témoignage de ce que vous avez vu et vous avez entendu et vous rendez témoignage de ce que vous avez entendu. Cette voix forte disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Ce que tu vois, écris-le, c'est-à-dire rends-le visible sous une autre forme. Écris-le, ça signifie aussi transmets-le. Alors, je crois que Jean a réellement envoyé ces 7 lettres aux 7 églises mentionnées ici. Vous savez qu'il y a des théologiens même qui mettent en doute l'existence de ces 7 villes. Ça va très loin. Les théologiens, ça va très loin. Pour ma part, j'ai fait cet enseignement plusieurs fois. J'ai donné cet enseignement, je l'ai présenté dans de nombreuses pastorales. Et puis je vais même le présenter encore en février à Abidjan. Je voudrais, là, vous faire une autre étude à ce sujet, le voir sous une autre facette. Vous savez, ce n'est pas une question d'interprétation, c'est une question de révélation. Et Dieu n'est pas tout lisse. Il a beaucoup de choses à dire dans ce qu'il dit. Le Seigneur dit à Jean, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Bien sûr, c'est ce que Jean a fait. Un livre, à l'époque, c'était des rouleaux. C'est pourquoi, en lisant dans la version de Stern, on a lu, écris-le sur un rouleau, parce que les livres, à l'époque, c'était des rouleaux. Mais souvenons-nous, n'est-il pas aussi question dans la Bible de manger les livres? Vous l'avez certainement lu si vous lisez la Bible. C'est écrit, nous avons à nous nourrir de ce qui est écrit. Et ces écrits deviennent des écrits gravés sur la table de nos cœurs. Vous avez lu ça quelque part aussi dans les Écritures, je pense. Le livre de l'Apocalypse doit être mangé. Il doit être assimilé. Il doit devenir nous. Écrit un livre signifie que nous avons à devenir la révélation de Dieu. Jean a écrit, la lettre tue si elle est lue par la chair, mais elle peut être vivifiante si elle est vécue par un esprit renouvelé par le Saint-Esprit. La révélation de Dieu dans les fils de Dieu que nous sommes, elle est inscrite dans nos cœurs pour être transmise. Moi, on ne peut pas me poser sur une étagère, dans une bibliothèque. Je suis vivant. Je marche, je vois des gens, je parle, et je suis un livre ouvert. Cette révélation, elle est en nous, quand nous lisons, et elle s'accomplit en nous qui aimons la vérité. Nous sommes des lettres écrites. Savez-vous que vous êtes des lettres connues et lues de tous les hommes? Ça, c'est Paul qui dit ça. Il dit ça dans 2 Corinthiens 3, 2. Puis il va encore plus loin. Il dit que vous êtes, chacun de vous, une lettre du Messie, c'est-à-dire de Jésus. Vous êtes une lettre écrite par Jésus, par l'Esprit du Dieu vivant, lettre écrite dans vos cœurs, dans votre centre. 2 Corinthiens 3, 3. Et ce qu'il écrit doit émaner de vous, c'est écrit pour être transmis. Oh mes frères et sœurs, nourrissez-vous davantage la parole de Dieu. Qu'elle soit gravée dans vos cœurs, c'est important. Et qu'elle soit lue par tous ceux qui vous voient. Et soyez vus. Si ceux qui vous voient sont prédestinés au salut, ils sauront reconnaître en vous le message de Dieu. Que vous parliez ou pas, ils connaîtront le message de Dieu par vos actions, par votre comportement, par votre douceur, par votre sens de la justice qui n'est pas celle des hommes, mais celle de Dieu. Alors ne soyez jamais découragés. Jean aurait pu l'être plus que vous encore. À quoi bon écrire un livre? Pourquoi écrire tout ça? Qui va lire ça? Je suis coincé sur Patmos, je vais certainement jamais en sortir, je suis vieux, ce livre va rester là et va pourrir avec moi, ce message adressé au monde entier. Pourra-t-il sortir de la prison où je suis enfermé? Il aurait pu se décourager. Oh mes frères et sœurs, Dieu ne vous a pas choisi pour rien. Et la vie que vous avez, c'est celle que Dieu a voulu que vous ayez. Et même votre épreuve donne une lecture au monde. Ce que les gens lisent quand ils vous voient, vous, est tout à fait différent de ce que les gens lisent quand ils voient ma vie ou la vie d'une autre personne. Nous avons tous quelque chose de particulier. Vos souffrances, votre façon de les aborder, votre joie, votre humour, tout ce qui fait vous. Tout ça, c'est une lettre sainte du Messie aux gens du monde. Encore faut-il que ce soit vraiment le Messie qui l'ait écrite, hein, et Je pense qu'il est nécessaire que vous lisiez ce qui est déjà écrit dans le livre avant de pouvoir prétendre être une lettre du Messie. Les gens, dans les premiers temps, ils avaient les apôtres avec eux, l'Église était dans sa position correcte, à tel point d'ailleurs qu'ils étaient persécutés. Nul ne peut me suivre pieusement sans être persécuté. Nous, c'est un peu différent, mais heureusement, il nous reste les écrits des apôtres qui doivent nous montrer comment nous comporter, comment vivre. En fait, la Bible, c'est un livre de savoir-vivre chrétien. Nous avons à être une lettre sainte du Messie pour les gens de ce monde, et aussi une lettre sainte du Messie pour le peuple chrétien qui est lassé et fatigué et sous-alimenté parce qu'il ne boit pas assez le sang de Christ. Ne vous découragez pas, prenez courage, ne vous découragez pas. Vous êtes aimé de Dieu. Amen. Merci Jésus. Merci pour ces quelques mots, tout simples, mais je crois que tu m'as donné de la sagesse pour que ces gens qui viennent m'écouter puissent recevoir quelque chose qui les aide. Merci parce que c'est le moment de Dieu pour eux, de se redresser et de dire « Oui, c'est vrai, je suis une lettre de Christ pour les gens qui me voient, pour les gens qui m'entendent. » Seigneur Jésus, je te prie que chacun puisse être très impressionnant. Très impressionnant. Et que chaque personne qui voit mon frère, ma sœur, soit très impressionnée. Et se dise « Waouh, il y a dans cette personne quelque chose que j'ai envie d'avoir. » Merci Jésus. Merci Jésus de m'exaucer. Amen. Au revoir.